m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais
avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat avec Valeurs Actuelles, avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire et Le Monde Moderne. Notre invitée ce soir est Christine Goguet, journaliste, écrivain qui publie Les Grands Hommes et Le Diable, aux éditions du Rocher, qui est la suite d'un diptyque formé avec son précédent ouvrage, Les Grands Hommes et Dieu. À travers une galerie de portraits d'une quinzaine de célébrités, a priori toutes nimbées de gloire et de félicité, en tout cas, au moins un moment de leur vie, parce que toutes n'ont pas gardé le lustre de leur gloire, elle nous montre les zones d'ombre de personnalités comme le maréchal Pétain, Pablo Picasso, l'ignoble Rousseau, Sartre et Beauvoir, pour qui les adjectifs manquent, le psychopathe Che Guevara, qui avait trouvé dans la Révolution un moyen d'assouvir ses penchants sanguinaires et sadiques, Coco Chanel, l'hypocrite Mahatma Gandhi, qui était un apôtre de la non-violence, mais aussi du « fait ce que je dis et pas ce que je fais », et puis André Malraux, qui, je dois dire, a été le sommet pour moi
de la révélation.
De la révélation de l'hypocrisie, c'était assez fantastique. Et puis évidemment, l'inénarrable Victor Hugo, qui préfigure la gauche caviar avec toutes ses tares et avec un siècle d'avance. Voilà, vous verrez, Christine, on adore dire du mal dans Restons Courtois, voilà, donc ne vous formalisez pas. Ensuite, nous passons au rendez-vous de la réinformation avec un retour sur le sommet de la remigration à Porto, au Portugal, où Maëlys Clausel était notre envoyé spécial et où Jean-Yves Le Gallou était l'un des grands invités. Alors, faut-il renvoyer tout le monde ou seulement une partie, en avion ou en bateau, d'un coup ou au fur et à mesure, avec un petit billet ou un coup de pied aux fesses? Voilà, c'était toutes les questions, les dilemmes auxquels étaient confrontés les orateurs et ils nous en diront plus ce soir donc, sur les conclusions de ce sommet. Sport ensuite, alors balle au pied, vous l'imaginez bien, mais aussi course à pied, coup de poing, coup de tête, lancer de pierre, de bouteille, tir de mortier. Et puis voilà, bah, comme prévu, donc samedi, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à Budapest, donc à la louche à 1900 ou 1900 km de Paris, eh bien la capitale et puis de nombreuses villes de province ont subi des émeutes malgré l'assurance il y a 3 semaines. Et à l'occasion d'ailleurs des dernières émeutes, qui étaient elles-mêmes consécutives à un match de une partie de Babal, où on avait vu l'exposition d'ailleurs de Yann Arthus-Bertrand sur le vivre ensemble être sacrément mise à mal. Eh bien donc, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait assuré que la République, je le cite, « la République ne laisserait plus rien passer ». Alors, heureusement que la République n'est pas gardien de but au PSG, sinon là, il se peut que l'issue du match aurait été différente. Alors voilà, bah écoutez, comment faut-il analyser ces razzias de la CAIRA? Est-ce qu'il manque de policiers les soirs de match? Est-ce que les jeux de babal déclenchent chez certains habitants du pays des réflexes violents? Moi, par exemple, j'avais un chien qui ne supportait pas les bruits de pétards ni le Larsen, ça le rendait dingue. Et alors, quand il voyait une balle de tennis, il devenait vraiment comme le chat dans les BD de Gaston Lagaffe qui voit une gomme. Mon chien devenait complètement dingue. Alors, il est vrai que mon chien ne cassait pas les voitures, mais voilà, je me suis dit, peut-être que certains habitants ont ce genre de réflexe, comme mon chien. C'est une question. Autre hypothèse intéressante, est-ce qu'il faut y voir la révolte de jeunes supporters de sport n'ayant pas suffisamment accès aux biens de consommation? Ça a circulé, ça a été évoqué. Et puis sinon, bah, est-ce qu'il y a une autre raison qui pour l'instant m'échappe? Voilà, donc je compte sur la sagacité de nos invités pour m'éclairer, et vous aussi, chers auditeurs, j'en suis certain. Et puis enfin, nous allons parler d'un projet de loi assez étonnant qui a été proposé par le groupe de Gabriel Attal, candidat à la présidence de la République, et qui a commencé donc à être discuté ce jour, ce lundi. Alors il s'agit d'une proposition de loi qui vise à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Alors a priori, tout le monde est content, on s'en félicite, surtout au vu des scandales du périscolaire à Paris. Mais alors, une des mesures les plus étonnantes et apparemment essentielle, réclame la suppression du secret de la confession pour les prêtres. Donc, ça m'a semblé assez éloigné des préoccupations, encore une fois, du périscolaire à Paris, mais après tout, qui suis-je pour contester ce que dit Gabriel Attal ? Voilà, donc je me suis demandé, est-ce que c'est de la connerie ? Est-ce que c'est une perte totale du sens du sacré ? Parce que c'est quand même assez hardi comme démarche. Ou est-ce que c'est une nouvelle tendance dictatoriale de l'extrême-centre ? Eh bien là encore, nous allons nous interroger sur ces idées qui germent dans ce qui sert de cerveau aux élus de la République. Et pour parler de tout cela, eh bien voilà, j'ai la joie d'accueillir non pas des élus de la République, mais les ultras, les supporters de la réinformation, avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, avec
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de L'Incorrect, Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne, Xavier Van Leerde, journaliste et administrateur de Radio Courtoisie. Nous attendons Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Et donc, voilà, et nous aurons aussi, tiens, nous aurons Maëlys Clausel, qui était notre envoyé spécial à Porto tout à l'heure. Donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous pouvez nous envoyer des messages et nous adresserons vos questions, vos remarques à Christine Goguet jusqu'à 18h30. Et puis ensuite, vous pourrez nous consulter ou nous injurier, voilà, selon votre humeur. Et nous essaierons de lire ce qui est lisible à l'antenne. Voilà, vous pouvez donc téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou écrire un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors, nous commençons. Christine Goguet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc l'auteur de « Les grands hommes et le diable » aux éditions du Rocher, donc un deuxième volet après « Les grands hommes et Dieu ». Alors, qu'est-ce qu'un grand homme ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Ou elle, d'ailleurs, hein, c'est une grande homme, si je puis dire, mais une grande dame. Sa vie privée doit-elle toujours être en accord avec son œuvre ? Dans quelle mesure est-ce que l'on peut ignorer son éventuelle dualité, ou au contraire considérer que cette dualité compromet les travaux ou les prescriptions de la personne ? Est-ce qu'on peut établir un palmarès des hypocrites parmi tous ceux que vous ciblez ? Est-ce qu'il y en a que vous avez oublié ? Moi, j'ai une liste. Hein. Il y a un tome 3 qui peut arriver.
Je pense qu'on peut les inscrire dans une pléiade, à mon avis.
Est-ce que la personne qu'on admire est responsable des attentes que l'on fait peser sur elle ? Voilà, ça fait partie de toutes les questions que nous allons nous poser. Mais avant, nous aimons toujours faire connaissance avec nos invités. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on parle de vous, votre œuvre, et on parle du livre ensuite. Alors, Christine Goguet, déjà, vous êtes journaliste, vous avez été une des dirigeantes des éditions spéciales du Figaro, c'est-à-dire le Figaroscope, le Figaro étudiant.
Alors moi, Figaro patrimoine, effectivement, toutes les éditions spéciales du Figaro pendant une vingtaine d'années. Je suis un bébé Figaro, on peut dire.
Bon, ben c'est bien.
Mais bon, j'ai été nourrie au lait du Figaro, mais j'ai aussi 8 ans de Parisien derrière moi, donc je suis un peu œcuménique quand même.
Eh bien, revenons-y justement. Et commençons au tout début. Alors, où est-ce que vous êtes née, Catherine Goguet ?
Alors, moi, je suis née...
Christine Goguet, pardon. Oui.
Moi, je suis lyonnaise. Je suis née à Lyon il y a quelques années déjà, malheureusement, heureusement. J'ai toujours voulu devenir journaliste parce que je trouve que le métier de journaliste, c'est se rapprocher de la vérité, c'est comprendre et expliquer. Et je trouve que ce livre, enfin toute cette bibliographie et ces ouvrages ont vraiment une vocation de reporter d'histoire, hein, et d'approcher la vérité, de révéler des choses ou de rappeler des choses, puisqu'il y a quand même des choses que chacun d'entre nous connaisse déjà, notamment sur Hugo, sur...
Attends, on parle de vous.
Je vous avais parlé de mon travail, c'est beaucoup mieux.
Mais non. Voilà. Alors vous avez fait des études de journalisme ?
Oui, alors bon, j'ai plutôt fait des études de droit, un peu de journalisme également. Et puis j'ai eu la chance d'ouvrir, de commencer au Figaro Magazine Rhône-Alpes, les premières éditions qui ouvraient en province. Donc c'était la liberté. Il y avait une presse papier qui fonctionnait très très bien. C'était très intéressant et très amusant, puisque en fait, moi, je sillonnais toute la région. J'étais aussi correspondante du Figaro quotidien. Je suivais les élections, je suivais la politique, je suivais aussi tout ce qui était affaires judiciaires. J'étais des premières à couvrir l'affaire Noire, l'affaire Mohamed Merah. Donc, c'était très... c'était une période pour un jeune journaliste passionnant. enfin, en tous les cas, un passage passionnant. Ensuite, j'ai rejoint Paris, la direction des journaux. Et là, c'est plus une partie de direction de rédaction et effectivement plus de management et de lancement, d'organisation de journaux, voilà, de presse. Et j'ai gardé cette vocation d'écriture parallèlement pour conserver un pied journalistique.
D'accord. Voilà. Alors, vous avez aussi donc dirigé pendant longtemps quelque chose que moi je lisais vraiment toutes les semaines, qui était le Figaroscope.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que c'était ce supplément donc, du Figaro qui
alors,
parlait de vie culturelle, de gastronomie.
Oui,
vous,
ça
vous
c'était
étiez à l'époque.
On est assez éloigné des grands hommes, effectivement,
oui.
Mais c'était plutôt sympathique.
Ah ben, vous aviez un grand critique gastronomique qui était François Simon.
Oui, et puis Jean-Pierre Saccani, et puis plein de gens très intéressants. Emmanuel Rubin, qui est
encore aujourd'hui au Figaroscope.
Oui, qui fait toujours plein de choses autour de la gastronomie et qui est un grand talent. Voilà, avec qui je suis restée en lien. On a vécu des aventures, en tous les cas, culturelles et gastronomique, comme vous le dites, et touristique, très sympathique. Et oui, c'était un peu la Bible parisienne qui indiquait à chacun ce qu'il fallait voir comme film, pièce de théâtre, expo. Restaurant, exposition, etc. etc. Donc c'était très agréable.
D'accord. Voilà. Et après, vous avez fait aussi un passage chez nos confrères donc de RT.
Oui, alors ça,
comment ça s'est passé ?
Ça, c'est après le Parisien. Donc, j'ai travaillé 4 ans chez RT et je me suis occupée beaucoup de faire venir les invités. J'étais plutôt chef de rubrique. C'était très intéressant. C'était un média très libre où on avait un peu comme sur Radio Courtoisie, possibilité vraiment d'être libre d'inviter qui nous souhaitions, d'aborder des sujets politique très intéressant et je trouvais que c'était bien pour moi de retrouver un peu aussi cette partie-là politique qui me manquait un peu, voilà.
D'accord. Et donc parallèlement donc voilà et on en vient à vos livres.
Oui, qui me manquait un peu. Non mais c'est vrai que j'étais très mariée très longtemps à un parlementaire, donc c'est vrai que la partie politique m'intéresse beaucoup aussi. Voilà, je trouve que la politique c'est la vie. Et sans doute inconsciemment d'ailleurs dans ce livre il y a aussi des politiques, il y a aussi des gens qui ont marqué
alors leur comment vous est venu le premier volume, c'est pas celui du jour, voilà, on délaye encore un peu, mais
ouais,
il y avait les grands hommes et Dieu, parce que
alors le premier volume il s'est imposé un peu c'est quelque chose de très c'est très intime en fait, quelque part en fait je venais de perdre ma mère et elle était passionnée d'histoire. Et le livre s'est imposé, voilà, il s'est imposé, Les grands hommes et Dieu, le rapport des grands hommes à la spiritualité, De Gaulle et Dieu, Churchill et Dieu, Mandela, Mohamed Ali, tous ces grands hommes, Kennedy, premier président catholique américain, enfin, je trouvais que c'était intéressant de voir quel était leur rapport, comment ces grands guides, finalement, avaient été... amené à autre chose, avec d'autres valeurs. Bon, après, on pourrait prendre le pendant de ces grands hommes. Hein. On pourrait
c'est ce que
aussi
dire. Kennedy,
dans les
ces
grands
dans
hommes
le
et le diable.
Oui,
j'y ai pensé. J'y ai pensé, évidemment.
Kennedy a quand même été élu avec les soutiens de la mafia.
Ça, c'est
il
clair.
Y a eu des
pourrait...
relations extrêmement troubles.
Voilà.
Avec...
D'ailleurs, il y a des personnages et des personnalités illustres qui figurent comme Victor Hugo dans le premier tome et dans le deuxième, tout comme Mitterrand dans le premier et dans le deuxième tome. Et on pourrait effectivement... Chaque grand homme, donc un grand homme, qu'est-ce qu'on entend par grand homme? C'est quelqu'un qui a marqué durablement et largement l'histoire, enfin, c'est, qui a laissé une empreinte, enfin, en tous les cas, dans son temps, parce qu'on ne sait pas ce qui va rester dans 2000 ans, évidemment. Mais je pense que c'était plutôt ça. Et puis après, c'est un panthéon personnel, parce que je pense qu'on pardonne certaines choses plus à certaines personnes qui sont plus du côté de la lumière, et puis d'autres qui le sont un peu moins, finalement. Et puis après... je pense aussi que c'est une époque qui en juge une autre, c'est un temps qui en juge un autre, c'est-à-dire que des choses qu'on reproche aujourd'hui n'étaient pas le même sujet à l'époque.
Ah oui, mais c'est le grand péché de l'historien qui est l'anachronisme, c'est-à-dire le fait de juger avec les valeurs du jour les actes d'une époque, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
On ne peut pas critiquer les Vikings.
On ne peut pas critiquer les Vikings, non.
On ne peut pas critiquer les Vikings.
Non, mais par exemple, il y a eu récemment l'abrogation... Un truc mais ahurissant, qui était le code noir. Il faut vraiment être un abruti. Enfin, déjà, nos ancêtres, qui avaient peut-être autre chose à faire de leur journée, les parlementaires, n'ont pas songé à abroger le code noir, parce qu'effectivement, la France avait aboli l'esclavage. Donc, par définition, on se disait que le code noir...
Il y avait peu de chances qu'on l'utilise.
...disparaissait avec l'abolition de l'esclavage. On l'abolit, je ne sais combien d'années plus tard, 200 ans plus tard. Bon, il y a un côté ridicule, mais surtout quand on sait ce que c'est le code noir. C'est-à-dire que le code noir faisait, en fait, fournissait un encadrement juridique rédigé par Colbert et son équipe de juristes pour protéger l'esclave dans les plantations, parce qu'on sortait d'une période extrêmement violente qui était celle des engagés, qui étaient des blancs, qui étaient des émigrés pauvres, qui, pour gagner le nouveau monde et refaire leur vie, payaient la traversée de 2 ans de travail dans des plantations. Et en fait, ces gens étaient exploités jusqu'à la mort par les propriétaires terriens, parce qu'ils se disaient « j'ai 2 ans avec ce monsieur, cette dame, y a intérêt que ce soit rentable, puisque j'ai payé son billet de bateau ». Donc, généralement, les engagés sortaient des plantations complètement brisées ou n'en sortaient pas parce qu'ils étaient morts. Et ça a donné lieu à la flibuste et au boucanier, parce que ce sont des gens qui ont déserté les plantations, qui se sont enfuis sur des îles désertes et qui ont créé des communautés autonomes, si je puis dire. C'était les zadistes du XVIIIe siècle ou du XVIIe, et qui ont donné la naissance de la flibuste. C'est un truc qu'on oublie, enfin, ou qu'on ne sait pas du tout d'ailleurs. Et en fait, Colbert s'est dit, ben, là, on va mettre maintenant des esclaves noirs, mais pour pas que ça recommence à se barrer n'importe comment, on va tout encadrer pour que les propriétaires terriens ne fassent plus de bêtises. Alors, ils en faisaient sans doute encore beaucoup, mais il y avait un cadre juridique qui donnait des droits à l'esclave. Et c'est absurde, aujourd'hui, de considérer que c'est un texte ignoble, puisque c'est un texte du XVIIe siècle qui consistait à protéger, à veiller sur une situation, comme aujourd'hui, on interdit les tirs de mortier dans la rue, voilà, avec l'efficacité qu'on sait. Voilà, pardon, je vous fais une...
Non, mais on aurait pu mettre Colbert, d'ailleurs, dans Les grands hommes et le diable, puisque, oui. Voilà. Après, c'est comme c'est une époque qui en juge une autre, c'est compliqué. Et il faut se remettre aussi dans les temps de Colbert, dans les temps de Voltaire, dans les temps de Rousseau.
Alors, Rousseau, parce que vous lui consacrez un beau chapitre.
Alors, moi, Rousseau, je pense que c'est un des... Voilà, c'est un de mes préférés dans Les grands hommes et le diable. Donc en fait, bon, la suite logique des grands hommes et Dieu, c'était évidemment d'explorer la face sombre des grands hommes, après avoir exploré leur face plus lumineuse, on va dire. Mais je pense que comme chaque homme et chaque femme sont des hommes et des femmes, ils restent forcément faillibles, quels qu'ils soient, quelque personnalité qu'ils soient. Je crois que c'est quand même compliqué de retrouver des gens totalement entiers. Alors, j'ai eu un peu plus de mal à trouver les femmes, alors peut-être parce qu'il y en avait peut-être un peu moins
aider,
à l'époque. Oui, non, mais elles sont peut-être un peu plus entières, moi je trouve, en tous les cas. Elles
ont... Georges Sand.
Georges Sand, on aurait pu, j'y ai pensé. D'ailleurs,
mais on a
surtout
l'impression que vous avez choisi des gens qui sont encore des vaches sacrées pour notre époque.
C'était emblématique, effectivement, c'était très grand public, un peu d'ailleurs comme pour le premier livre, le précédent livre. Et d'ailleurs, merci Richard de m'avoir reçu pour le précédent livre, vous étiez le premier à me recevoir. Après, ça, le livre a été lancé, merci infiniment.
C'était déjà un plaisir à l'époque.
Voilà. Après,
Rousseau,
ce sont un peu imposés naturellement. Il n'y a pas eu de sélection, un sujet est forcément subjectif. Hein, donc, c'est des gens qui sont tombés comme ça dans... Voilà,
qu'est-ce que vous reprochez à Rousseau,
on va dire. Rousseau, c'était un type vraiment pas recommandable sur un plan humain. D'abord, je pense que ce philosophe des Lumières, musicien, qui donnait des leçons de morale à chacun, qui avait écrit un traité de l'éducation de ses enfants et qui a abandonné ses 5 enfants, c'est quand même, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. On peut dire que vraiment Rousseau, il tient la palme. Il a quand même une enfance aussi, alors je veux pas excuser, moi, le livre, il est pas, comment dire, c'est un constat, hein, c'est un peu comme un diagnostic, on porte à la lumière des choses que les gens connaissent ou ne connaissent pas, ou que l'histoire a fini par préférer oublier, parfois aussi, enfin, ça, je ne vous l'apprends pas. Mais Rousseau, quand même, il est dans une famille où il n'a pas de mère, puisqu'elle meurt très, très jeune. Le père est un orfèvre violent qui le frappe. Donc, il est vraiment un petit garçon très malheureux, au fond. Et donc, je pense, quelque part, sans faire de psychanalyse de café du commerce, mais c'est quand même intéressant, puisque l'essai se porte aussi sur la psychologie de ces êtres, finalement. Pourquoi eux? Pourquoi peut-être pas d'autres? Je pense qu'ils ont tous des enfances très complexes, et très tourmentées, et très fracassées. Donc, je pense que là, Rousseau se dit... d'ailleurs, il le dit quand il abandonne ses 5 nourrissons. Il va lui-même abandonner dans un orphelinat qui s'appelle Les Enfants Trouvés, 5 bébés, il a eu 5 enfants, il les abandonne tous les 5. Et ensuite, quand on le met face à ces contradictions, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque quand on donne des leçons de morale sur l'éducation...
Et qu'on écrit un traité d'éducation des enfants.
Traité d'éducation des enfants, il dit, c'est mieux comme ça ils n'auront pas un père qui sera un fripon. Donc, c'est quand même quelque chose de très fort. Ils n'auront pas de père du tout. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, dans ce type d'orphelinat, il y avait 70 à 90% des enfants qui mouraient. Donc, il savait pertinemment qu'il les conduisait à leur perte. Et il avait un de ses amis qui voulait les adopter. Il n'a pas voulu. C'est quand même étonnant.
Un homme de gauche, oui. Non, c'est vrai.
Non, résumons-nous, c'est un homme de gauche.
Rousseau est-il de droite?
Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, c'est quand même... Enfin, c'est très interpellant. J'enlève le quand même. Voilà, bon, ça, c'est pour Rousseau. Oui. Mais,
Arthur de Vatrigan, je crois, voulait vous poser une question. Non.
Oui, parce que avant de démythifier, parce que c'est le but quand même dans la sélection, je reprends la remarque de Richard, vous attaquez à des mythes. Bon, à part Pétain, qui aujourd'hui... je ne connais personne qui va le défendre, vous attaquez à des mythes, et notamment des mythes de gauche, en tout cas qui sont encore revendiqués par la gauche. Mais avant de démythifier, quelle définition de grand faites-vous? Grands hommes, grandes femmes, quelles sont les caractéristiques?
En fait, ils ont accompli des prouesses de leur vivant, ils ont marqué leur temps, ils sont reconnus par le récit collectif. Il faut quand même le dire. Bon, là, vous dites que c'est que des hommes de gauche, non?
Non, mythifiés encore par la gauche. non, pas des hommes de gauche, des mythes encore pour la gauche aujourd'hui.
Et pas seulement par la gauche, parce que...
Il y a Malraux.
Oui, parce que franchement, si vous regardez, même Beauvoir. Moi, je lis Beauvoir quand je suis jeune fille, c'est l'icône des féministes. Vous lisez ça, vous dites c'est extraordinaire, on l'a portée au pinacle. C'est une femme qui a ouvert la brèche en France. Enfin, elle a ouvert beaucoup de brèches. Du coup, quand on découvre les choses, c'est toujours intéressant d'aller chercher. Moi, je ne me suis pas du tout attaquée à eux pour des questions politiques. Je me suis rendu compte qu'après, effectivement, il y avait beaucoup d'icônes progressistes dans le résultat, si vous voulez. Et il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a des gens aussi qui ne le sont pas, comme Chanel, comme Pétain, effectivement.
Chanel n'était pas de gauche, non.
Donc, c'est pas du tout. On peut le dire. Donc, non, c'est peut-être pas assez équilibré jusqu'au prochain livre.
Ah, mais c'était pas un reproche du tout. Hein.
Non, mais j'ai.
Oui, c'est ça comme un reproche.
J'écoute.
C'est plutôt des félicitations.
Alors, comment vous les sélectionnez quand même? Parce que c'est finalement.
C'est le choix du cœur. Oui. C'est le choix du cœur. Non, c'est assez éclectique. Hein. Donc, c'est un peu comme le premier, d'ailleurs, comment je les sélectionne.
Il y avait un boxeur, un président.
Ouais, c'est vrai.
Comment vous faites? En fait,
alors après,
vous dites qu'il ne faut pas que des politiques, il ne faut pas que des écrivains, oui. Il faut un mélange.
Oui, parce que en fait, c'est l'imaginaire collectif, hein, et puis l'imaginaire collectif occidental quelque part. Bon, ça tombe comme ça. Le premier livre, quand on voit, c'était quand même le fruit d'une pensée occidentale, même sans s'en rendre compte. Je n'ai pas pensé, mais ça s'est finalement retrouvé après en synthèse. Et celui-ci aussi quelque part. Qui étaient vraiment ces mythes, qui étaient vraiment ces légendes, qui étaient vraiment ces icônes. Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher la vérité, la vraie part de l'homme, quoi, ou de la femme. C'est une espèce de psychographie, en fait. Et puis, je trouve que c'était intéressant aussi de faire un peu de pédagogie, parce que malheureusement, on n'a pas tous le temps de lire aujourd'hui.
C'était ma question suivante.
Et donc, d'avoir des petits chapitres assez courts, assez ramassés de l'histoire, ça permet à chacun de se faire une petite idée, puis peut-être d'aller chercher les grandes biographies, celles qui sont évidemment sourcées, parce que c'est quand même un gros travail de recherche, hein, il faut quand même se le dire, et de synthèse.
C'est ma question, justement, parce qu'il y a quand même une grande diversité de figures. Comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous bâtissez votre dossier à charge, ou au contraire votre dossier en canonisation?
Alors, il n'est pas à charge, vous avez vu, c'est assez malicieux, il n'y a pas de charge, juste on met sous la lumière des faits, et puis après chacun se fait son avis.
Mais il faut
avis.
Les trouver, les faits. Alors vous allez quoi?
En fait, il y a toutes les grandes biographies de référence, hein, bien sûr, et puis sur le premier par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à chercher par exemple sur Napoléon et Dieu, qui aurait pu d'ailleurs Napoléon être dans le diable aussi, hein, quelque part, dans la face lumineuse en tous les cas de Napoléon. Il y a beaucoup d'historiens qui disent qu'il n'était pas chrétien, qu'il n'était pas catholique, alors que tout son environnement l'était, alors que Madame Mère l'était. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher à Maison Napoléon, Et je suis tombée sur des pépites, des conversations sur le christianisme qu'il aurait eues à la fin de sa vie. On peut imaginer qu'il se rapproche du Créateur à Sainte-Hélène, évidemment. Néanmoins, ça existe.
Il a du temps, au moins.
Ça existe, oui, mais ça existe. Et il parle chaque jour de la figure du Christ. Et il dit presque tous les jours, tout de lui, en parlant du Christ, tout de lui m'étonne. Tout est grand d'une grandeur qui écrase.
Dans votre premier livre, on sent que c'est la rencontre avec Dieu qui est effectivement toujours étonnante et vous êtes allé la chercher chez un boxeur et un président. Là, aucun d'entre eux ne prétend avoir rencontré le diable. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne se caractérise comme étant le diable. C'est vous qui, là, posez un regard... Un jugement, c'est très mal, Christine Goguet, vous jugez les gens, vous jugez les gens qui sont des obsédés sexuels, des collaborateurs avec les nazis, vous dites que c'est mal, voilà, des types qui abandonnent leurs enfants, vous dites que c'est pas bien. Vous dites pas comme ça, vous dites juste, tiens, je vais vous présenter quelqu'un qui a un côté diabolique et fortuitement, il se retrouve que c'est bien sûr un philosophe français, mais c'est aussi un obsédé sexuel avec un petit engin. C'est bien sûr une grande dame des lettres, mais c'est aussi une obsédée sexuelle qui s'est fait renvoyer d'un lycée pour avoir suborné les lycéennes à qui elle donnait des cours de philo.
On parle de Simone de Beauvoir, pour ceux qui n'auraient pas reconnu.
C'était un quiz.
Voilà. On pourrait y aller
et
après.
Celui qui a un petit engin, c'était son conjoint, le camarade Sartre.
Ah, je n'ai pas cité l'engin, hein, mais...
C'est Sartre lui-même qui a l'air de dire, en tout cas quand on vous lit, qu'il n'était pas doué par la nature d'une manière égale et que son cerveau était visiblement la part prépondérante chez lui.
Enfin, en tous les cas, il n'était pas... c'est pas un secret pour personne, il n'est pas très physiquement très attirant, donc il se sert... de Simone de Beauvoir, c'est terrible, hein, qui sert de rabatteuse. Je trouve ça assez inouï, parce que justement, cette icône du féminisme qui est l'emblème, enfin, pour moi, à l'époque, c'est l'emblème. Je lis ça, j'ai 17 ans, je suis comme tous les, à peu près tout le monde à cet âge-là, qui lit Sartre ou Beauvoir et qui sont des icônes. Moi, je prends un coup de poing quand je lis La Nausée de Sartre. Pour moi, c'était extraordinaire. D'ailleurs, ça n'enlève rien à son talent. Hein. Il est aussi un immense essayiste et sans doute un grand romancier. Mais quand on découvre cette personnalité, enfin, ces deux personnalités qui donnent des leçons de morale à tout le monde, qui se trompent sans cesse et qui, en plus, ont des vices, quand même, on peut le dire, qui sont avoués et maintenant connus de tous, en mettant des jeunes élèves, ces jeunes élèves, hein, Simone de Beauvoir, dans le sien, et puis ensuite dans celui de Sartre, c'est très sourcé, hein, il y a eu des dizaines de jeunes filles en fleurs qui se sont retrouvées...
Aujourd'hui, Patrick Bruel aurait l'air d'un petit gamin.
Ah bah, Patrick Bruel est un petit Sartre.
Il y a une présomption d'innocence, mais oui. C'est vrai que...
Plutôt Fourniret, en fait.
Oui.
Bah oui, c'est Madame Fourniret qui faisait la rabatteuse pour
eux. Non, mais c'est quand même surprenant.
Enfin, imaginons aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant que les féministes, parce que littéralement, elle était ce qu'on appellerait aujourd'hui sous emprise.
Ah, mais totalement. Il y a un pouvoir de domination de la professeure, de la grande professeure, qui évidemment se sert finalement de ce pouvoir de domination, alors qu'elle est censée défendre la cause des femmes. Je trouve ça terrible. Hein. Et lui, qui profite de ça pour, évidemment, assouvir ses instincts sexuels, je trouve ça assez particulier, pour ne pas dire plus.
On peut même se demander si c'est pas, sans faire de psychologie de comptoir, si ce n'est pas ce comportement de Sartre, j'allais dire de Sade, mais de Sartre avec elle, qui a généré, qui a débouché sur ses propres écrits à elle, féministe et où elle considérait quand même les hommes un peu comme des moins que rien. Mais peut-être que si elle compare tous les hommes à son conjoint, effectivement...
Oui, alors son conjoint, elle avait aussi un amant, enfin c'est particulier, la vie de Simone de Beauvoir aussi. Hein.
Oui, il y a un côté, côté Marguerite Duras d'ailleurs qui elle aussi...
Le livre aurait pu s'appeler « Faites ce que je dis parce que je fais ». Mais vraiment...
Ah, ça c'est pour Gandhi, on va y venir après.
Oui, il n'y a pas que... Mais je ne parle pas de ce que vous connaissez tous et d'ailleurs de ce côté, j'épouse toutes les causes qui sont en vogue, en isme, le marxisme, le maoïsme, le féminisme, puis après je recule un peu parce que c'est un peu comme pour la résistance.
Sans compter, exactement, ce type qui a quand même fait jouer ses pièces en demandant des autorisations à la commandante Tour et qui ensuite dirige le comité de répression des écrivains de France et qui les fait condamner, exclure, ostraciser.
Alors c'est... qu'il n'a jamais été résistant.
Non,
il n'a jamais été résistant. C'est inouï. D'ailleurs, il fait jouer les mouches devant tout le public de la collaboration.
Applaudi et par les officiers en vert de gris.
Et elle travaille à Radio Vichy. Donc, c'est quand même...
Elle est metteuse en ondes.
Oui, n'exagérons pas.
mais je voudrais citer un passage qui m'a particulièrement plu. C'est la première pièce de théâtre ou presse écrite par le camarade Sartre, Baryona ou le jeu de la souffrance et de l'espoir, qu'il fait jouer en fait lorsqu'il est prisonnier. Et donc le scénario est approuvé par la censure nazie, donc du camp où il est, interné, avec quelques modifications. Les Juifs n'y ont pas la part belle. Et là, vous citez son biographe. Il apprend aux figurants qui interprètent les rôles des Juifs apparaissant en groupe comment ils doivent se tenir. Donc Sartre donne des conseils à ses acteurs. Puisqu'ils jouent des Juifs, il leur montre qu'il faut courber le dos, être sale, se gratter, parler en multipliant les petits gestes frénétiques et en se plaçant presque nez contre nez afin que le public communie dans ses vieux clichés. Et les témoins, les ex-détenus, disent que les nazis trouvaient ça très très drôle et qu'ils se tordaient de rire. Et d'ailleurs, Sartre a été libéré peu de temps après. Donc c'est cette ordure complète, et là vous m'excuserez, c'est cette ordure complète qui ensuite donne des cours de résistance aux autres.
Il a d'ailleurs écrit le plaidoyer pour les intellectuels. Donc je pense que quelque part, suivez mon analyse, il a dû quand même quelque part essayer de se trouver des excuses, plaidoyer pour les intellectuels. Ça, finalement, les intellectuels sont-ils coupables et suis-je coupable?
Oui, suis-je responsable de ce que je dis, de ce que je pense?
De ce que j'ai fait, et de toutes les erreurs et de tout l'aveuglement. Enfin bon, voilà, on va
Arthur
pas refaire
Vatrigan.
Alors ça, ce qui est intéressant dans votre sélection, c'est qu'il y a les ordures, donc ceux qui prônent des belles valeurs, des fonds des leçons qui sont des immondes pourritures dans la vie, dans leur vie courante. Et puis il y a les connards, c'est-à-dire ceux qui prônent rien mais qui sont des connards. Comment vous faites
Rimbaud.
Une différence? Bah voilà. Non mais Rimbaud,
c'est ce que je viens de penser.
Exactement. Rimbaud. Le pauvre Rimbaud, qu'est-ce qu'il va foutre à côté de Simone de Beauvoir? Il
non,
a rien demandé.
Non mais c'est vrai que bon voilà.
Non, mais ça, moi, comment vous avez sélectionné justement?
Alors Arthur, moi aussi j'ai mes petits favoris. Hein. C'est sûr que bon voilà, Rimbaud, même Victor Hugo, ils ont de gros défauts, mais bon c'est ça reste quand même des petits voilà, mes petits préférés. Arthur Rimbaud, il
alors,
sait
que c'est
quand
votre
même.
Préféré. Rimbaud parce qu'il prend cher quand même.
Non, mais... au début, c'est mon préféré au début parce que c'est voilà, c'est un ange de lumière. Voilà, il vit quand même à Charleville-Mézières. Il est abandonné par son père. La mère est épouvantable. C'est une matrone qui le maltraite. Il rêve devant les librairies. Il a son professeur Isambard qui essaye de le sortir d'affaire. Et lui, les livres vont le sauver, quoi. Enfin, c'est la littérature, la poésie va le sauver. Et son génie, voilà, éclate. Il écrit à Verlaine qui lui répond. On connaît l'histoire. Verlaine tombe fou, amoureux de lui. Et là, ça y est, c'est sa planche de salut. Et il arrive. Ses poésies sont merveilleuses, on voilà, ne peut pas rester devant ses poésies sans être évidemment médusé, fasciné, emporté. Mais malheureusement, Rimbaud, dans sa vie, il n'est pas terrible quand même. Il est grossier,
il est abject.
Il est abject avec tout le monde, il est horrible avec Verlaine, qui n'en peut plus. Bon, c'est pour ça que le pauvre Verlaine,
il
finalement...
Il est camé,
voilà,
moitié alcoolique.
Enfin, voilà, il brûle la vie par les quatre bouts. Et puis, d'un seul coup, son génie l'abandonne, ou il abandonne son génie. Et là, il devient sa double face, son double visage, parce que tous ces personnages, finalement, ont une double face et un double visage. Et là, il va faire comme son père, il va partir, et quitter la France, partir à l'aventure, parce que déjà, ça le travaillait, et devenir le marchand d'armes, le trafiquant d'ivoire, et puis à connaître la mort tragique et très jeune qu'on lui connaît, avec son cancer, sa jambe voilà, amputée. Enfin, c'est une fin tragique. Et c'est, voilà. Mais... qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on sépare l'homme de l'œuvre?
C'est la question.
C'est la vraie question.
Jusqu'à quel point on la sépare?
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a toujours de l'homme dans l'œuvre. Donc, il faut garder une distance critique. Et puis, à un moment donné, quand même, l'œuvre dépasse l'homme. Voilà, ça, c'est le point de vue de la journaliste, de l'auteur et de la personne.
Alors, l'œuvre ne lui appartient plus, quoi. l'œuvre appartient plus à l'auteur et
le dépasse.
Il le dépasse.
Au bout d'un moment, c'est vrai.
Mais est-ce qu'un artiste n'est pas naturellement dingue en fait? Est-ce que vous connaissez des artistes normaux? C'est-à-dire Proust qu'on adule tous, c'est quand même le type qui torturait des rats dans sa cave, par exemple. Bon, c'est ouais. pas pareil que Rimbaud qui va faire trafiquer de l'ivoire et des armes, mais...
Il y a beaucoup d'écrivains qui sont lâches, hein, quand même. Hein. Il y en a beaucoup.
C'est moins grave de trafiquer de l'ivoire.
D'ailleurs, si les écrivains n'étaient pas lâches, ils vivraient leur vie plutôt que de l'écrire, souvent. Hein. Donc, ouais. Il y a beaucoup de lâcheté, souvent. Souvent. Et puis, des choses un peu bizarres, oui, c'est vrai. Après, on ne connaît pas la vérité de chaque personne. Je pense que chaque personne, celle qu'on croise dans la rue... voilà, un jour, je discutais avec... mes amis qui est magistrat, et il me regarde, il me dit, tu vois, dans la rue, sur 10 personnes, il y en a une qui est normale.
Et ce n'est pas moi.
C'est moi, et c'est moi, disait-il.
Et toi j'ai manqué de répartie. Mais c'est interpellant et intéressant.
Alors, je crois que nos amis dans la lucarne ont peut-être des réflexions pour Christine Goguet, qui vient parler donc des grands hommes et du diable.
Moi, j'ai une question. Parce que je pense qu'il y a un risque à écrire ce genre de livre et de découvrir l'envers du décor. Donc je voudrais vous demander, à l'issue de ces recherches, quelle vision avez-vous de vos semblables, de votre prochain? Parce que ça doit être un peu déstabilisant quand même.
Je crois que j'ai perdu beaucoup d'illusions, hein. Je suis comme Balzac, c'est des illusions perdues. Mais en même temps, il y a aussi, référence au premier ouvrage, il y a aussi des choses merveilleuses chez l'homme, donc on ne peut pas tout jeter, on peut pas, je pense qu'il faut de la voilà. nuance, de l'intelligence et de la nuance, voilà.
Mais est-ce qu'il faut tout savoir?
Comment?
Tout savoir, est-il nécessaire, bénéfique de tout savoir? Autant je le comprends quand on est dans le domaine de l'hypocrisie, voilà, parce que là, bon, démasquer un tartuffe, c'est peut-être de salubrité publique, mais pour le reste, est-ce nécessaire?
Il y a beaucoup de tartuffes là quand même. Hein. Et surtout, peut-être aussi dans ces tartuffes-là, enfin dans ceux que j'ai cités, bon, pas tous, hein, mais pour la plupart, le côté donneur de leçons est quand même particulier. Vous avez des tartuffes et des gens à double visage et des gens très maltraitants avec leurs femmes. D'ailleurs, c'est aussi une époque hein, où on maltraitait les femmes, il faut quand même le dire. Même comme Picasso, par exemple, il ne vient pas donner de leçons. Donc lui, bon, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un de... Évidemment, sur un plan humain, j'aurais aimé fréquenter, ce ne serait pas un ami, mais... Voilà, donc là aussi, ils ne sont pas tous sur le même plan, mais lorsque vous avez un Freud qui vient donner des leçons sur la psychanalyse et puis dans ses correspondances dit ça ne marche pas, c'est bien de la tartufferie. Et là, est-ce qu'on n'a pas...
Vous me direz, Picasso était comme ça. Picasso expliquait que quand il était un peu à court d'argent, il écrivait qu'il allait aller faire deux ou trois merdes qu'il allait vendre ensuite à des imbéciles. Il l'écrivait...
Oui, mais il ne donnait pas de leçons morales. Non, mais ça veut dire qu'il avait quand même compris... Rousseau, vous voyez ce que je veux dire, Rousseau ou Sartre ou Beauvoir, là il y a quand même une hypocrisie de tartufferie totale, là c'est différent je trouve.
Donc, c'est juste un escroc quoi. Enfin, c'est... ou un arriviste.
Je sais pas si on peut utiliser ces citations de... Enfin,
il les a écrites, c'est pas moi. Hein.
Je suis pas... Oui, non mais je sais pas si on peut les utiliser. Enfin, tout le monde peut porter à un moment donné un jugement extrêmement négatif sur sa propre œuvre ou sur son propre travail. Alors, moi, je n'ai pas d'œuvre, je n'ai que du travail. Mais il peut m'arriver de dire oh, vraiment cet article c'était de la merde. Ça vaut à peine du ChatGPT. J'aimerais pas que ce soit utilisé pour porter un jugement global sur mon travail.
Moi, j'ai un maître étalon pour juger Picasso, c'est le très joli portrait bien figuratif qu'il a fait de Staline à l'époque où il était pourtant cubiste. Et là, on s'est dit quand même, enfin, on sent qu'il s'est dit là, je vais pas déconner parce que ça va être très mal perçu si je fais Staline avec le nez à la place de l'oreille. Et c'était très très bien.
Il y a beaucoup
bien,
de gens là, qui c'était... se sont trompés à l'époque, hein, justement. Là, les intellectuels sur ces périodes-là, on peut le dire aussi. La question aussi, c'est comment est-ce que nous aurions réagi à l'époque? Parce que c'est vrai que c'est une époque aussi où les femmes sont évidemment pas tellement bien considérées. On voit la femme de Marx qui a accompagné toute la vie de Marx, qui est restée dans l'ombre. Il a fini par faire un enfant même à sa gouvernante, fait adopter l'enfant par quelqu'un d'autre. On voit quand même aussi en filigrane toutes ces femmes. Les femmes de Picasso, il y en a deux. Enfin, il les a toutes quittées et puis il y en a deux qui se sont suicidées. Donc c'est quand même... Franchement, je trouve aussi que là, la vraie condition de la femme, elle est intéressante parce qu'on se rend compte de l'évolution qu'il y a eu quand même, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce
profil. Attention, vous allez finir par faire le portrait de la société tout entière. Hein. vous allez verser dans la cancel culture.
Oui, je dis, qu'est-ce qui serait passé si Victor Hugo avait été à notre époque? C'est une vraie question.
Il serait passé la même chose qu'à Patrick Bruel et tous les autres.
Ouais. Mais ça aurait été quand même dommage.
Chacun ses faiblesses.
Notre-Dame de Paris, Les Misérables, ça aurait été dommage. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ce qu'on disait avec Arthur, je trouve que l'œuvre dépasse l'homme et il faut le garder en tête.
Oui, mais alors,
quand c'est une vraie œuvre.
Et peut-être aussi, alors vraiment, est-ce que c'est prudent de juger une époque à travers des grands hommes, des artistes, des gens qui sont dans la démesure par eux-mêmes? Je crois que c'est très imprudent, c'est-à-dire que l'homme ordinaire
est souvent
quand même
constat, hein,
plus dans la décence que la plupart des gens de pouvoir qui ont donc par nature au moins la possibilité d'assouvir des choses, de tenir les autres sous emprise. Je crois que c'est une imprudence de jeune époque à travers ces grands hommes.
On laisse répondre Christine Goguet et puis ensuite on donne la parole à Alexis
d'abord,
Poulain.
Le livre, comme vous le verrez, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment des faits. Moi, je ne suis pas un procureur, je suis là comme journaliste pour mettre au jour et à la lumière les actes et les actions plus intimes de ces personnalités illustres qu'on appelle les grands hommes et les grandes femmes.
Voilà. Alexis Poulain.
Eh ben justement, c'est une question qui porte sur les grands hommes et les grandes femmes. Est-ce qu'il y en a encore ?
C'est comme disait Pierre Desproges, il n'y a plus de grands hommes. J'ai des petits qui grenouillent dans tous les sens. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Écoutez, il doit bien y en avoir, mais c'est vrai que... Vous êtes en train de me demander si je dois faire un tome avec les grands hommes de l'époque, pourquoi pas.
En fait, on voit bien quand même la déchéance intellectuelle globale, culturelle aussi, enfin passer de philosophes avec tous leurs défauts qu'ils avaient à BHL, passer d'un De Gaulle à un Gabriel Attal, forcément on a quelques soucis quand même. Et c'est une vraie question. Après, sur le fait qu'on soit tous des hommes et des femmes, avec des passions tristes, bon, ça ne changera pas. On est humain après tout. Mais la vraie question, c'est sur ce qui fait un grand homme, une grande femme dans une époque. Aujourd'hui, on a des personnalités médiatiques, on va dire. On a quelques acteurs, mauvais acteurs, qui sont sur quelques planches. Mais l'époque manque quand même sincèrement de grandeur, entre guillemets.
Oui, vous avez raison. Je pense que ça doit être corrélé à l'époque. Après, il y a quand même des personnes qui sortent du lot, quand même. Il y en a quelques-uns.
Là, ils sont encore vivants, quand même. Et on peut les citer dans tous les airs. Alors, en politique, c'est peut-être plus compliqué. Politique, c'est plus compliqué. Mais déjà, on joue des grands armes sur la durée. Donc, ceux qui sont encore vivants, c'est la postérité les jugera. Mais si on prend Jean-Pierre Léaud, il n'est pas encore mort, par exemple. Fanny Ardant n'est pas encore morte, Catherine Deneuve n'est pas encore morte. Si on prend dans les artistes, alors je suis d'accord, c'est pas première jeunesse, mais je pense qu'ils vont rester. Si on prend dans les écrivains, Houellebecq est encore vivant et a priori devrait rester dans la postérité. Dans la musique, moi j'y connais un peu moins bien, mais je pense qu'il y en a aussi. Ouais, on pourra faire le tome 2.
Il s'est même pas caché.
Il a tourné porno en Hollande.
C'était un piège. Il s'est fait piéger, je vous rappelle.
C'est une plaisanterie.
Ah oui, c'était un piège, évidemment.
En fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai voulu prendre évidemment des grands hommes et des grandes femmes qui étaient disparus. Parce qu'on ne peut les juger qu'une fois qu'ils sont disparus. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait? Ils ont transformé leur temps, ils ont influencé des générations futures. C'est ça, un grand homme ou une grande femme. Et c'est ça leur prouesse, entre guillemets, qu'ils soient écrivains, artistes, philosophes, scientifiques, voire politiques, humanitaires, entrepreneurs. Enfin bon, voilà. Et ils ont accompli des prouesses de leur vivant et ils ont marqué leur temps durablement.
Il y en a un qui sera dedans, c'est Depardieu, par exemple.
Ah oui.
Possible.
Il doit être dedans. Il correspond. Alors lui,
on
voit
son. Il n'est pas mort.
Mais on le voit de son vivant. Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il est, il est déchu de son vivant. Ce qui est intéressant.
Oui,
c'est
à cause de l'époque. À cause de l'époque aussi.
Oui, bien à cause de l'époque, évidemment.
À cause de l'époque aussi.
Bon, après, à cause de lui aussi, un peu.
On donne la parole peut-être à un
auditeur de la radio. Depardieu, c'est le Victor Hugo, peut-être, de l'époque aussi. C'est
bien possible.
C'est intéressant.
Ça en dit long sur l'époque.
Oui, parce que l'époque ne supporte pas beaucoup les gens de forte stature. Hein. Je parle pas de sa corpulence. C'est-à-dire qu'il y a quand même on est quand même dans une époque démocratique qui aime faire chuter les gens de leur piédestal, par ailleurs, quand même. Il y a une sorte de de goût quand même de la chute. Et je pense que ça a sauvé quelque chose de l'ordre de l'égalitarisme. Quand même.
Bon, on a que découpé un roi, donc bon.
Allez, ça, c'est pas nouveau. À quelques auditeurs de Radio Courtoisie.
Je n'ai pas dit que c'était
ouais, Xavier, enfin, je vous coupe la parole. Il faut donner.
Il y a un auditeur qui voulait savoir si, à votre avis, Martin Luther King aurait pu faire partie de votre tome « Les grands hommes et le diable », puisque d'un côté, il est le représentant de la lutte pour l'émancipation des Noirs américains, et que de l'autre côté, dans sa vie privée, il avait l'air quand même d'être moins à cheval sur tous ses principes.
Alors, Martin Luther King, je voulais le mettre dans le premier tome, « Les grands hommes et Dieu ». Mais comme je le disais et comme on le disait tout à l'heure, si Kennedy faisait partie des grands hommes et Dieu, mais il avait aussi une face totalement obscure, qui est celle que chacun d'entre nous connaît. Enfin voilà, donc c'était peut-être un peu trop convenu. C'est pareil, Céline, Heidegger, Einstein qui abandonne ses enfants. La liste est longue, donc je pense que... chacun d'entre eux, et peut-être chacun d'entre nous, a une face plus obscure, on va dire, qui varie entre le noir et le gris et le blanc-gris, on va dire aussi.
Alors Céline, c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans les cahiers de Lerne, il y a le témoignage d'un résistant, parce que Céline, en gros, le truc, c'est écrivain génial, mais quel antisémite. Salopard, etc. Mais c'est quand même quelqu'un, donc outre qu'il soignait les pauvres gratuitement, ça à la limite, bon, d'accord.
Si, c'est un médecin qui allait choisir.
Oui.
C'est intéressant de le voir parce que cet aspect-là, on ne le voit plus du tout. On ne voit plus que le côté antisémite.
Mais
donc il faut aussi rappeler les choses.
C'est quand même son voisin du dessous, qui était un grand résistant, dont malheureusement le nom m'échappe parce que ça me revient maintenant. Mais c'est dans les cahiers de Lerne sur Céline qui explique qu'un jour où il avait des résistants blessés, il est monté à l'étage chez Louis-Ferdinand Céline, qui a soigné le résistant et qui lui a dit « Je sais ce que vous faites depuis des mois, comptez sur moi, il y aura pas de vous, un, vous ne serez pas dénoncé, et s'il y a d'autres blessés, venez me voir. Bah, » C'est quand même quelque chose qui remet en question la légende noire, pour le coup.
Après, il était pétri de contradictions,
on peut le dire.
Ses écrits antisémites étaient épouvantables. Après, l'époque était très antisémite aussi. Et puis, si on va voir du côté de Rousseau, qui était aussi antisémite, Voltaire aussi, donc même Chopin. Enfin, c'est
Chopin.
Oui, aussi. Enfin, j'ai trouvé ça récemment.
Parce que Céline, c'est pas de l'ordre du scoop.
Mon compositeur préféré.
Céline, c'est pas une grande révélation.
Ça c'est sûr.
Mais cela dit, on pourrait dire la même chose de certains autres. Parfois, ce qui peut être troublant, c'est qu'on se dit, oh mon Dieu, Simone de Beauvoir, c'est horrible dans la vie privée, elle était ignoble. Sartre aussi, mais en réalité, dans leur vie publique, enfin, leurs péchés sont, on peut considérer que leur œuvre constitue aussi leur péché. C'est-à-dire, un marxiste comme Sartre, c'est pas parce que dans la vie privée, il est en plus un salaud, son œuvre en elle-même, quand même, est extrêmement rude. Hein.
En fait, ils sont très opportunistes aussi.
Remplis d'appel au meurtre. Non, mais son œuvre elle-même est remplie d'appel au meurtre.
En tous les cas, ils sont très opportunistes, tous ces gens-là. Enfin, aussi. Donc,
Alors j'aimerais qu'on parle du plus bel opportuniste, parce que leur tourne et on n'a pas pu encore dire de mal d'André Malraux.
Je ne vais pas dire du mal d'André Malraux.
Depuis 17h30. Alors, je ne sais pas si c'est un grand homme, mais c'est un sale bonhomme. Et vous en faites un portrait.
Il n'est pas. Ça va.
En tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ce type est un mythomane complet.
Alors oui.
Un arriviste au dernier degré.
Alors oui.
Racontez-nous.
Un homme politique.
C'est un politique.
Alors, il a été communiste, gaulliste, maoïste.
Oh, c'est fort.
Ensuite, il est mort.
Il aurait
peut-être pu devenir chiracien, je ne sais pas. Mais...
Bon, c'est vrai qu'on retient de lui surtout l'écrivain couronné du prix Goncourt et le grand ministre de la Culture. Donc, sans doute, c'était sûrement un très grand politique. D'ailleurs, De Gaulle l'a ramené à lui malgré tout ça, parce que De Gaulle devait quand même être au courant de ce qui s'était passé auparavant.
Alors, auparavant, donc, il a été combattant fictif de la guerre d'Espagne.
On peut le dire, c'est un affabulateur né surtout. Et je pense que là, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur les écrivains, c'est-à-dire qu'en fait, ils rêvent leur vie. Ils affabulent. Chateaubriand, d'ailleurs, faisait pareil. Il mythifie le récit. Ouais. Il mystifie aussi leur personne. Donc, c'est très intéressant. Voilà, il a 4 ans quand ses parents se séparent. Il est issu d'une banlieue. Sa maman tient une épicerie. Il est quand même dans une petite vie. Il rêve de s'en sortir. Un petit peu comme Chanel, d'ailleurs. Elle a puisqu'on fait des rapports d'enfance maltraités. Chanel perd sa mère, elle a 12 ans. Son père s'en va, l'abandonne. Et c'est des enfants qui ont des enfances un peu complexes, qui ont des besoins de revanche sur la vie. Donc Malraux, c'est un peu ça. Sa passion, c'est la lecture, le cinéma, la culture. Même s'il n'a pas été accepté d'ailleurs à Condorcet, c'est quand même un élève qui réussit à se faire réformer pour des raisons médicales. Mais il travaille chez un libraire, donc il est très courageux, il arrive à s'en sortir, voilà. Et il n'a pas d'argent. Il épouse Clara Goldsmith, qui va devenir sa première épouse.
Oui. Mais alors,
il lui dit : je t'épouse pour ton argent. Il lui dit carrément.
Un des rares moments d'honnêteté du personnage.
Je ne vous ai épousé que pour votre argent. C'est quand même énorme.
Donc, là, c'est honnête.
C'est honnête, mais enfin bon.
Ensuite, pendant l'occupation,
je raconte quand même le début de sa carrière, parce que c'est intéressant. Donc, comme il n'y a pas d'argent, il se dit, je vais monter une affaire pour constituer un capital, puisqu'on n'a pas d'argent et que ça n'ira pas pour mes envies, mes désirs, mon ambition. Et là, il décide de monter une grande ambition de voleur, en fait, on peut le dire. C'est une idée démoniaque, on est vraiment dans les grands hommes et le diable. Et il va piller les temples d'Angkor. Donc là, c'est toute une expédition. Ils sont quatre. Hein. C'est pas du tout. Je vais aller en ramener une ou deux statuettes. Il part
avec du matériel,
des scies, des chariots de bœuf, des bateaux. Enfin, c'est quand même c'est énorme. Ça, on savait qu'il avait pillé des temples, mais on n'imaginait pas à ce point. Malheureusement, bon, il commence à découper. Bon, comme tout seul, il n'y arrivait pas. Il avait quand même embauché un autre type. Et puis, bon, l'affaire s'ébruite. Et donc, il est rattrapé par la patrouille. Et là, on le condamne à 3 ans de prison. C'est quand même pas rien. Et il va faire finalement 1 an et demi avec sursis. C'est quand même le début de la carrière de Malraux, grand ministre de la Culture. C'est quand même pas flamboyant. Hein. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il avait mis la main à la pâte, en quelque sorte.
C'est le moins qu'on... Non, mais c'est quand même énorme. Et il va continuer après à faire des petits coups comme ça, pas très net, vendre des faux tableaux.
Même ministre.
Ah non, toujours dans l'accession, dans la période de l'accession.
On ne sait jamais.
Ça, on saura moins, parce que je pense qu'effectivement, là, il devait peut-être être sorti d'affaires de ses problèmes financiers, peut-être, en tous les cas. Mais quand même, cette expédition est quand même absolument étonnante. Et quand on la découvre comme ça, on se dit, mais c'est quand même énorme. Voilà, bon.
Alors, vous racontez aussi que pendant l'occupation, donc, d'abord, il est communiste, mais il se taille littéralement dans le sud. Il va à Roquebrune, donc qui n'est pas le pire endroit pour résister.
Alors en fait, bon, c'était plutôt du militantisme contre le nazisme et le fascisme, hein, le communisme. D'ailleurs, après, il s'en est émancipé. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Mais bon...
Mais il est devenu maoïste.
Il est quand même assez opportuniste, quoi. Lui aussi. Bon, c'est...
Parce qu'il a fait communiste, antifasciste, gaulliste, maoïste.
Oui,
c'est quand même
une filiation. Hein.
Bon, enfin, il s'est engagé en Espagne quand au service de l'idéal progressiste, hein, il faut le dire, en 1936. Il a formé...
Ça, c'est un défaut ou c'est une qualité?
Non, j'explique. C'est à vous après de juger. Hein. Moi, je porte juste sous la lumière les faits.
Parcours.
voilà. Et voilà, donc en fait, c'est... Il a fait beaucoup d'âneries. Sa femme n'en pouvait plus non plus.
Vous écrivez dans Les Grands Hommes et le Diable
qu'il
était aussi un mauvais aviateur volage, mais aussi aviateur médiocre, qui quand même larguait des bombes. Et vous citez une personne dont le nom m'échappe, qui racontait qu'il était encore parti faire des bêtises quand il partait bombarder des zones, en ne sachant pas comment on bombarde une zone. Mais enfin, c'est quand même extrêmement grave.
C'est drôle. Ça.
Mais il a tué des gens.
Non, mais c'était un cas.
C'est hallucinant. Drôle.
Malraux, c'était un cas. D'ailleurs, quand on l'entend s'exprimer, on voit bien que c'est un cas. Mais Malraux, elle n'a jamais rejoint la résistance, hein, alors qu'il y avait vraiment des besoins à l'époque, et jamais.
Oui. Voilà. Et par contre, vous racontez qu'il a rempli lui-même son dossier de résistance.
En fait, il disait que les résistants lui faisaient... Il disait que les résistants lui faisaient l'effet de jouer aux petits soldats. Voilà. Oui. Et à un moment donné, quand ses amis le poussent à s'engager dans la résistance, il répond systématiquement « J'en ai marre de défendre des causes perdues ». C'est extraordinaire.
Ah oui. Et après, il devient le colonel berger.
Il manquait de flair.
Ouais. Oui, un peu, oui.
Après, on pense à l'aveuglement aussi qu'il a eu. C'est beaucoup moins drôle, mais il se sépare donc de Clara pour partir avec Josette, qui lui donnera d'ailleurs donc un enfant plus tard. Voilà. Et elle lui dit, il faut que je parte parce que voilà, il y a les nazis, il faut que j'échappe à Vichy. Et il lui interdit de partir. Donc, il n'a aucune vision politique, hein, aucune vision du moment.
Ça, c'est extrêmement
C'est quand même étonnant. Et... Alors, est-ce que c'est parce qu'il lui en veut qu'elle s'en aille? Est-ce que c'est parce qu'il ne voit rien? Moi, j'essaie de
comment vous analysez ça, oui?
Non, je pense qu'il était un peu aveuglé, quoi. Enfin, voilà, il n'était pas du tout au fait de la politique, c'est clair. Oui, non, c'est moins qu'on puisse dire.
Et puis surtout, il était obnubilé par son nombril et personne ne quitte Malraux.
C'est ça. Bah, c'est comme beaucoup, hein. Alors là, tous ces génies, entre guillemets, et tous ces grands hommes, ils ont un égo surdimensionné, mais ça, c'est pas une découverte, je pense, Richard.
Vous savez. Je sais pas, il n'y a autour de la table que des gens simples et modestes.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Nous, on est dans le premier tome.
Voilà. Bon, il s'est, en tous les cas, pendant la guerre, mis à l'abri dans le sud, voilà. Et il a dit, il a écrit dans la préface d'un catalogue d'art, je crois, quelque chose qui résume très bien voilà, son œuvre, la mystification. Est éminemment créatrice.
Ah bah, tout est résumé pour Malraux. Arthur de Vatrigan.
Dans toute cette galerie là de vos personnages, est-ce qu'il y a un personnage dont la pardon vous a le plus surpris lors de vos recherches ou de mise à jour de biographie?
Oui, d'abord j'en ai eu deux. Enfin, bon, évidemment, on est toujours surpris quand on creuse vraiment et qu'on finit par chercher, on trouve, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a deux particulièrement, c'est Gandhi. Parce que maintenant, la grande âme, le grand sage, enfin pour moi c'est vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a marqué son temps, qui a marqué l'Inde, qui a marqué la dimension politique aussi de l'époque, et qui était, alors là, si, il avait quand même des comportements qui étaient pour le moins gratinés, on va dire. Hein. Gandhi, c'est un raciste, il est raciste. Il est évidemment pro, enfin, en tous les cas, contre la colonisation pour sauver les Indiens.
Oui.
Sauver les Indiens, enfin, dans sa tête, en tous les cas, dans son esprit. Mais ensuite, il passe 22 ans en Afrique du Sud. Et là, il a des mots et des lettres et des choses terribles sur les Noirs.
Et il écrit des lettres tout à fait cordiales à Hitler.
Et ensuite, il écrit à Hitler, cher ami, etc., etc. Deux lettres aussi étonnantes. Enfin, c'est quand même, quand on découvre ça, on tombe de l'escalier. Et alors, je ne parle pas de sa vie sexuelle, puisqu'il mettait des jeunes filles dans son lit, il était nu, pour tester son principe d'abstinence. C'est-à-dire, je ne les toucherai pas, mais elles étaient quand même nues dans le lit, elles lui faisaient des massages quand il était nu. C'est pour le moins,
ça me fait penser à Patrick.
C'est quelque chose, c'est un peu, voilà, déplacé comme.
Oui. Déplacé.
C'est joliment dit, Christine.
On vous sent un peu dans la litote, Christine, quand même.
C'est un peu déplacé. Non, mais je porte à votre regard ça parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, notamment en Angleterre, et des écrits qui ont été interdits évidemment en Inde. Vous pouvez imaginer que l'icône, l'idole, ne peut pas être touchée. Elle est intouchable, c'est le cas de le dire. Et en fait, on découvre un homme aussi, voilà, et un homme avec de grosses parts d'ombre et de même sombre et même de forfaiture, et voilà.
Bientôt, on va découvrir qu'il avait mangé de la vache. En revanche, je voudrais me faire l'avocat du diable, pour le coup, pour Gandhi.
Ouais.
Parce que je me suis demandé si cette manière de le faire tomber du piédestal, ça n'est pas aussi... Enfin, l'image que l'on a de lui... Ce n'est pas la faute des tiers-mondistes qui ont bâti Gandhi à leur image, parce que si on connaît un peu l'Inde, pour le coup, ça n'est pas extrêmement étonnant. Les Indiens vivent en caste et ils ont des comportements d'une violence intracommunautaire, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent quasiment au nuancier des couleurs de peau. En fonction de caste, vous êtes intouchable, vous êtes digne de considération. C'est incroyablement hiérarchisé, la vie sociale des Indiens. Et donc, le fait qu'il n'aime pas les Noirs ne m'étonne pas beaucoup. Et simplement, ça ne peut étonner finalement que le tiers-mondiste, qui se dit un Indien, c'est un mec super pacifique qui fait du yoga sur une planche à clous.
Ça, enfin, je vous laisse libre de l'analyse. Moi, je porte juste à la connaissance de chacun que le chantre voilà, de
la non-violence,
de la non-violence, l'apôtre voilà, des opprimés, traitait les Noirs d'être grossiers, paresseux. C'est quand même étonnant. Enfin,
ou alors c'est extrêmement cohérent et que tous les non-violents sont en fait des racistes. Et... je crois qu'on peut l'interpréter de deux façons différentes.
Alors on va conclure malheureusement parce que nous arrivons au terme, mais Christine Goguet, donc, vous êtes l'auteur de Les Grands Hommes.
On n'a pas parlé de Neruda, hein, qui a abandonné sa fille.
Eh bien, allons-y alors.
Non, je pense, dans la découverte, Pablo Neruda, qui est aussi le poète de l'universalité, je vais y arriver, de la délicatesse, de l'aide aux migrants, et qui se prône comme, évidemment, ce grand défenseur, et qui, je la fais courte, hein, abandonne sa femme et sa fille, parce que sa fille est handicapée, elle est hydrocéphale. Et que bon, ça lui déplaît de voir sa fille qui a un petit crâne de vampire. Et j'en passe sur les abus sexuels qu'il a eus sur des femmes par ailleurs. Ça, c'était quand même une découverte peu étonnante.
Il y a un grand stalinien par ailleurs.
Alors, grand stalinien, ça, on le savait
là
peut-être.
Aussi, je...
Mais là, on laisse au jugement. De...
ça, là aussi, une grande cohérence.
Ça, on le savait. Ouais. On le savait. Il est resté stalinien même après, d'ailleurs, en connaissance de cause.
Arthur, rapidement.
Comme ça va très bien marcher, que vous avez fait une réédition, je vous propose de transférer Mandela du premier là-dedans. Mm-hmm. Parce que si on a perdu la Coupe du Monde 95, il y avait essai de Benazi, c'est à cause de Bardella. Et de Bardella. De Mandela. De Mandela. Parce que, n'empêche. Okay. Non, mais c'est une honte absolue. Alors, grand homme, tout ça, sauvé. Il a quand même triché pendant la Coupe du Monde de rugby en 95, à nos dépens. Et après, la Nouvelle-Zélande, mais ça, on s'en fout. Et ça, rien que pour ça, parce qu'on est français, vous le transférez là-dedans.
Et puis, il avait choisi une femme, Winnie, qui était particulière.
Oui, mais ça, c'est
aussi,
moins grave. Hein. Il a triché pour pas qu'on gagne la Coupe du Monde.
Ça, j'ignorais. Ça, c'est intéressant. Si.
Et, et après, il a empoisonné les All Blacks pour la finale.
Ça vaut un livre. Bien sûr, la touriste.
Ça vaut un livre en soi. Hein.
Alors, et il a écrit un grand nombre de maximes qui ont rendu le management absolument gnangnan et insupportable. Et donné à tous les managers des logorées absolument grotesques. Il ne sera pas. Pardon, pour ça non plus.
Il est rhabillé pour le dire. Ultime question, Christine Goguet. Est-ce que les grands hommes dont vous parlez sont responsables des attentes que l'on fait peser sur elles ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu l'admirateur qui est en cause de vouloir une espèce de saint, alors que par définition...
C'est un ensemble, mais je parlais du récit collectif. Mm-hmm. Il est vraiment très important de l'époque, de la communication de l'époque, de la communication de ces gens-là qui sont très doués pour communiquer en réalité et qui ne montrent que la
et qui bâtissent leur image. Donc.
Que la face qu'ils veulent bien montrer.
Bon, eh ben écoutez, grâce à vous, Christine Goguet, on voit les coulisses. Donc, Les Grands Hommes et le Diable aux éditions du Rocher. Merci d'être venu à Radio Courtoisie. Et chers auditeurs, ben, restez bien à l'écoute. On se retrouve dans 2 minutes pour parler du sommet de Porto avec Maëlys Clozel qui trépigne pour rentrer dans le studio. A tout de suite. Thank you.